Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 10 octobre 2024. Au Mozambique, le décompte des voix est en cours après des élections pacifiques. La commission électorale prévient que le dépouillement pourrait prendre jusqu'à 15 jours. Sommet des présidents érythréens, somaliens et égyptiens à Asmara pour tenter de résoudre la crise entre Mogadiscio et Addis Abeba. Le Sénégal lève l'interdiction des signes religieux dans les écoles.
Je ne vois pas pourquoi le fait de mettre un voile à la tête peut être une source de division au niveau de la communauté religieuse.
Fana Cissé, rédactrice adjointe du journal en ligne Afrique Presse, nous en dira plus dans la partie magazine. La force de l'ONU accuse Israël d'avoir tiré sur son QG au Liban, tollé diplomatique. Ici aux États-Unis, la Floride sinistrée par l'ouragan Milton, mais évite le pire. Au moins 4 personnes ont perdu la vie. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mozambique, le dépouillement des bulletins se poursuit avec plus de 17 millions d'électeurs qui ont voté hier pour élire le président et renouveler le Parlement. L'opposition dénonce des irrégularités. Venancio Mondlane revendique déjà la victoire, tout comme le Frelimo, le parti au pouvoir Nanitalani.
Le dépouillement a commencé hier à 18h, heure locale. Après la fermeture des bureaux de vote et l'annonce des résultats officiels pourrait prendre jusqu'à 2 semaines. Daniel Chapeau, candidat du Frelimo au pouvoir et ancien gouverneur de province, a appelé au calme qui doit prévaloir tout au long du processus électoral. Il a insisté sur le fait que la campagne s'était déroulée de manière ordonnée, pacifique et sans violence et a souligné la nécessité de maintenir cette atmosphère sereine pendant le dépouillement et après l'annonce des résultats. Venancio Mondlane, ancien présentateur de radio et de télévision et candidat indépendant après sa séparation avec le Renamo, a exhorté ce jeudi ses partisans à se mobiliser et à descendre dans les rues pour défendre la démocratie et la volonté populaire. Il a accusé le Frelimo au pouvoir de corruption et de mauvaise gestion, d'avoir ruiné l'économie, déshonoré le pays et créer les dettes cachées les plus scandaleuses de l'histoire du Mozambique.
En Afrique du Sud, des appels au boycott des nombreuses épiceries de fortune tenues par des étrangers ont été lancés après la mort à Soweto de 5 enfants qui, selon leur famille, avaient mangé des chips achetés dans un de ces commerces. Des habitants de Soweto ont manifesté hier mercredi devant cette boutique pour demander l'interdiction de ces commerces officieux tenus par des étrangers, en général des immigrés des pays voisins. Au Cameroun, le gouvernement interdit tout débat sur la santé de Paul Biya. Après avoir vigoureusement démenti des rumeurs sur l'état du président, les autorités camerounaises ont formellement interdit ce jeudi aux médias d'évoquer la santé du président Biya dans une note ministérielle adressée aux gouverneurs régionaux. Le chef de l'État est la première institution de la République et les débats sur son état relèvent du domaine de la sécurité nationale, stipule la note signée par Paul Atanga Nji, le ministre de l'administration territoriale. Le courrier ordonne à chaque gouverneur de créer des cellules de veille chargé de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs de commentaires tendancieux, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. Les présidents érythréens, somaliens et égyptiens se sont réunis aujourd'hui en sommet tripartite à Asmara, capitale de l'Érythrée, dans un contexte de tension entre la Somalie et son voisin éthiopien. Rosine Monezero.
Le sommet entre le président érythréen Isaias Afwerki, l'égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le somalien Hassan Sheikh Mohamud porte sur le renforcement des liens entre les trois pays et les questions de sécurité régionale et de stabilité, a dit le ministère érythréen de l'information. À son arrivée mercredi soir, M. Mohamud a tenu des discussions distinctes avec son homologue érythréen, selon le ministère. Ils ont évoqué le besoin de renforcer la coopération dans la lourde tâche du maintien de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de l'unité de la Somalie. M. Sissi s'est rendu en Érythrée jeudi et doit aussi rencontrer son homologue érythréen séparément avant la tenue du sommet tripartite. Les relations entre la Somalie et l'Éthiopie se sont dégradées depuis l'annonce le 1er janvier de la signature d'un protocole d'accord entre Addis Abeba et la région séparatiste du Somaliland qui prévoit la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte du Somaliland. L'accord a été dénoncé par Mogadiscio comme une agression contre sa souveraineté.
Les autorités maliennes ont annoncé lever l'interdiction d'importer et de commercialiser les kits Starlink donnant accès à Internet via le satellite, dont elle craint qu'ils servent à ses ennemis dans un pays à la couverture inégale. La levée pour une durée de 6 mois a été annoncée hier mercredi en Conseil des ministres.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors de l'Afrique, la force de l'ONU déployée entre le Liban et Israël accuse ce jeudi les troupes israéliennes de tirer de façon répétée sur ses positions, faisant état de 2 casques bleus indonésiens blessés, ce qui a déclenché une levée de boucliers diplomatiques. Jacques Aristide.
Une première frappe a eu lieu hier et les 2 autres aujourd'hui, indique la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, dont 10 000 casques bleus sont déployés dans le sud libanais. Toute attaque délibérée contre des soldats de la paix constitue une grave violation du droit international humanitaire, déclare la FINUL. L'Italie, premier pays occidental contributeur en termes d'effectifs à la FINUL, a condamné des actes intolérables. Rome, qui accuse l'État hébreu de possibles crimes de guerre, a convoqué l'ambassadeur d'Israël qui, selon le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, n'a pas été en mesure de fournir des explications. Le journal américain New York Times rapporte que l'armée israélienne a déclaré qu'elle étudiait cette allégation. L'armée israélienne, qui a intensifié son offensive au Liban contre le Hezbollah pro-iranien, a demandé à l'ONU de déplacer sa base hors de la zone de front. À ce sujet, le ministre Guido Crosetto affirme avoir dit à l'ambassadeur israélien de référer au gouvernement israélien que les Nations Unies ne peuvent pas prendre d'ordre d'Israël. La France et l'Italie vont réunir la semaine prochaine, les pays européens contributeurs à la FINUL.
Les chefs d'État et de gouvernement du MED-9, qui regroupe 9 pays du sud de l'Union européenne, vont se pencher sur la situation au Proche-Orient, la migration et la politique méditerranéenne de l'Union européenne lors d'un sommet demain vendredi à Chypre, a indiqué aujourd'hui la présidence française. Le MED-9 va évoquer un renforcement de l'aide humanitaire à Gaza, a précisé Paris. Côté migration, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a plaidé mercredi pour une entrée en vigueur du pacte migratoire européen dès l'été 2025, soit 1 an d'avance au moment où les îles Canaries sont sous pression. Arbres déracinés, toitures arrachées, rues inondées, l'ouragan Milton affaibli, mais toujours dangereux, commence à semer la destruction ce jeudi lors de son passage en Floride dans le sud-est des États-Unis, privant de courant plus de 3 millions de foyers, 2 semaines après les ravages laissés par l'ouragan Helene. Les précisions de John Lindon.
4 personnes sont mortes mercredi dans 2 tornades survenues dans l'est de la Floride. Au passage de l'ouragan Milton, ont annoncé jeudi les autorités locales à Saint-Lucie, sur la côte est de la péninsule. Milton a touché terre près de Siesta Key dans le comté de Sarasota avec des vents atteignant 165 km/h selon le Centre américain des ouragans. Rétrogradé en catégorie 3 sur 5, il a encore diminué ce matin et à nouveau rétrogradé en catégorie 1, mais avec toujours des vents pouvant atteindre 140 km/h, toujours selon le Centre américain des ouragans. Plus de 3 millions de foyers ont été privés de courant. Milton était attendu comme un des ouragans les plus destructeurs depuis plus d'un siècle en Floride, avait prévenu le président Joe Biden. Milton devrait traverser la Floride d'ouest en est, passant près de la ville d'Orlando, où les parcs d'attractions de Disney World ont été fermés. Les aéroports de Tampa et Sarasota sont également à l'arrêt. Toutefois, le pire scénario semble avoir été évité.
Le prix Nobel de littérature a été décerné aujourd'hui à l'autrice sud-coréenne Han Kang, 53 ans. Han Kang, qui écrit poèmes et romans en coréen, a été récompensé pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vue humaine, a expliqué le jury dans un communiqué. Ethel Kennedy, veuve de l'ancien ministre américain de la Justice, assassiné Bobby Kennedy, est décédée aujourd'hui à l'âge de 96 ans, des suites d'un AVC, a annoncé son petit-fils, Joe Kennedy III, Ethel Kennedy était également la mère de Robert Kennedy Jr., un temps candidat indépendant à la présidentielle américaine de 2024 et qui a depuis apporté son soutien à Donald Trump, aux grandes dames de la majorité du clan Kennedy. En 2014, le président Barack Obama lui avait remis la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
La Côte d'Ivoire pourrait vendre, avec l'approbation du gouvernement, une part supplémentaire de 25% de son transformateur de cacao Transcao au groupe malaisien GCB qui a accepté. Nous avons signé cet accord de participation avec GCB car nous voulons avoir un pied en Asie et maîtriser tous les métiers liés à la transformation. GCB nous aidera à atteindre cet objectif, a déclaré le Conseil du café et du cacao de Côte d'Ivoire hier. Au Nigeria, la compagnie pétrolière publique a augmenté les prix de l'essence de plus de 15%, marquant ainsi la deuxième hausse en moins d'un mois et la fin de subventions coûteuses qui ont mis ses finances à rude épreuve. Dans les stations-service de la ANPC à Lagos, le prix de l'essence est passé de 858 à 998 naira le litre et à Abuja de 950 à 1030 naira le litre. C'est la première fois en 30 ans que le Nigeria vend de l'essence au prix du marché, soulageant ainsi le trésor public du coût élevé des subventions qui devraient coûter au gouvernement au moins 3,7 milliards de dollars cette année. Pour terminer, en Libye, la Société pétrolière nationale affirme avoir rétabli ce jeudi sa production à des niveaux proches de ceux d'avant la crise de la Banque centrale du pays, atteignant 1,22 million de barils par jour. Depuis la semaine dernière, tous les champs pétroliers et les terminaux d'exportation ont rouvert après la résolution d'un conflit concernant la direction de la Banque centrale.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Raphaël Nadal, la retraite annoncée d'une légende du sport.
Raphaël Nadal, le roi de la terre battue qui a contribué à écrire depuis 2001 quelques-unes des pages les plus mémorables de l'histoire du tennis, a annoncé ce jeudi qu'il prendrait en novembre sa retraite sportive, riche d'un palmarès phénoménal, avec notamment 22 grands chelems. Lâché par son corps ces deux dernières saisons, l'Espagnol a toutefois précisé qu'il disputerait une dernière compétition, la phase finale de la Coupe Davis, prévue à Malaga entre le 19 et 24 novembre, 20 ans après celle remportée à Séville. Une façon de boucler la boucle, a-t-il relevé. Djokovic, Federer, Nadal, de l'immense trio ayant régné durant deux décennies sur le tennis mondial, il est le deuxième à tirer le rideau. Les hommages ont afflué, pas seulement du monde du tennis, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, le Real Madrid, dont Nadal des fans, Alberto Contador, parmi d'autres, lui ont adressé de chaleureux messages. Le dernier match de Rafa remonte aux Jeux Olympiques de Paris, sur sa terre battue de Roland Garros, où il a écrit les plus grandes pages de son histoire.
L'international grec Georges Baldock, mort noyé dans sa piscine.
Oui, Georges Baldock, latéral droit international grec du Panathinaikos à Athènes, est mort noyé dans sa piscine mercredi, selon les conclusions de l'autopsie, affirmée jeudi la télévision publique ERT. Le corps sans vie de l'ancien joueur de Sheffield United, âgé de 31 ans, a été retrouvé hier soir à son domicile de Glyfada, dans la banlieue sud d'Athènes.
Coupe d'Afrique des Nations, CAF Total Energy, Maroc 2025, tout ce qu'il faut savoir.
La dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Maroc remonte à 1988, avec seulement 8 équipes engagées, le Cameroun s'étant imposé contre le Nigeria en finale. Pour l'édition de 2025, le tournoi a connu une expansion significative avec 24 équipes participantes, illustrant le progrès du football africain après trois décennies de développement. Le Maroc est la seule équipe d'ores et déjà garantie de participer au tournoi en tant que pays hôte. Les 23 autres slots seront attribués à l'issue d'un processus de qualification. Cette phase s'annonce très compétitive, incluant des équipes prestigieuses comme la Côte d'Ivoire, tenante du titre, ainsi que l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal et l'Algérie, La Coupe d'Afrique des Nations 2025 débutera le 21 décembre 2025 et se terminera avec la finale prévue le 18 janvier 2026.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, le gouvernement bannit l'interdiction des signes religieux dans les écoles. Après l'annonce du nouveau Premier ministre Ousmane Sonko qui a suscité en août une vive polémique dans ce pays ouest-africain, très majoritairement musulman, le ministère de l'Éducation du Sénégal a publié mardi soir un arrêté fixant les directives pour les établissements au lendemain de la rentrée scolaire. Eddie Isango a joint à Dakar la rédactrice adjointe du journal en ligne Presse Afrique, Fana Sissé.
Effectivement, hier, mercredi, un arrêté est sorti qui confirme l'autorisation de port de signes religieux dans toutes les écoles du Sénégal. Parce qu'il y a une polémique qui s'est réveillée avec cette interdiction du port du voile. Je vous rappelle que en fait, l'arrêté correspond à la rentrée scolaire parce que hier, je ne sais plus où avant-hier, il y avait une école catholique qui avait interdit à une de ses écolières à ne pas porter la voile pour pouvoir suivre les cours. Et cela a fait un peu le tollé, ça a fait débat. Le soir, on a vu que le Premier ministre Ousmane Sonko vient le ministre de l'Éducation, un arrêté est sorti pour dire que les signes devront être acceptés au niveau des écoles pour permettre aux élèves de ne pas subir la discrimination, on peut dire, positive.
Il y a eu justement des réactions d'indignation, entre autres de la part du Comité national du laïcat qui rassemble les associations et mouvements catholiques. Est-ce que on peut dire que cette décision vise les écoles catholiques?
Je dirais que c'est peut-être, je dirais que c'est pas peut-être ma lecture des faits, parce qu'on a longtemps été en cohabitation avec les gens de la religion catholique, une chose qui s'est bien passée au niveau du Sénégal. À mon avis, je ne vois pas pourquoi le fait de mettre un voile à la tête peut être une source de division au niveau de la communauté religieuse, parce que là, il y a la communauté, comme vous l'avez si bien rappelé, un communiqué du laïcat qui vient dire que appuyer leurs écoles qui est des écoles catholiques, mais la position du gouvernement sénégalais au début, c'était de ne pas avoir une discrimination au niveau des écoles, parce que pour toutes les élèves se valent et que toutes les écoles se valent. Ils ont le même droit, que tu sois catholique ou que tu sois d'ethnie, d'autres ethnies, ou que tu sois musulman, entre autres. Les élèves sont des élèves du Sénégal. Ils ont le même droit dans toutes les écoles, que ce soit des écoles catholiques ou même des écoles coraniques. L'essentiel, c'est de faire passer l'éducation en première et non la religion dans les écoles.
Maintenant, que disent les Sénégalais à l'égard de cette décision?
Le voile n'a jamais suscité un problème au niveau du Sénégal, parce qu'on voit nos sœurs chrétiennes qui mettent des voiles sur leur tête et ça n'a jamais choqué. On voit également des signes croix que nos sœurs ou bien nos frères chrétiennes mettent au niveau du cou et ça n'a jamais gêné au niveau du Sénégal.
Fana Sissé, rédactrice adjointe du journal en ligne, Presse Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Direction maintenant Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Dans cette mégalopole qui vit à 100 à l'heure, le sport n'est pas réservé qu'aux plus jeunes. De plus en plus de personnes du troisième âge se mettent aux activités physiques pour entretenir leur forme. Et il y en a désormais pour tous les portefeuilles. Reportage de Yacine Sio.
Il est 7h du matin et Abidjan se réveille tout doucement. Mais Jean Chissou n'est pas du genre à rester au lit. Comme trois fois par semaine, il fait son footing matinal. À petite foulée, ce bon vivant âgé de 65 ans enchaîne près de 20 km.
J'avais un poids sur moi. Quand je marchais, un peu je suis étouffé, je suis fatigué. Et depuis ce temps, quand j'ai commencé à faire le sport, je n'ai plus de problème. Maintenant, je marche sans inquiétude, sans problème.
Pour Madeleine et Marie-Joseph, hors de question de se laisser aller. Âgées l'une et l'autre de 70 ans ou presque, les deux amies connaissent les vertus du sport qu'elles pratiquent au gymnase.
Vous savez que la personne troisième âge est enclin à des maladies cardiovasculaires. Donc, on nous conseille de faire du sport, c'est conseillé. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Ça nous apporte beaucoup. Et moi, j'ai remarqué qu'avec le sport, j'ai perdu des kilos. Donc, ça m'a dégraissé. Donc, ça permet de ralentir le vieillissement, moi, je pense.
Et oui, stop. On se relève tout doucement.
Étirement, échauffement, renforcement musculaire, ce jour-là, rien ne leur est épargné. Avec leur coach, Madeleine et Marie-Joseph ont été clairs. Aucun traitement de faveur en raison de leur âge.
Souvent, les gens me disent, ah, avec des cheveux blancs comme ça, vous réussissez à faire du sport encore. J'ai dit, mais le sport, mon père en avait plus de 90 ans, mais il faisait du sport. Même ma mère, en ce moment, elle a plus de 100 ans. Mais quand vous dites que vous voulez faire quelque chose, vous dites, non, laissez-moi, je vais faire des exercices. Vous voyez, et ça lui fait du bien. Moi, je pense que les propriétaires des gymnases gagneraient à faire un prix spécial afin que les personnes du troisième âge puissent faire du sport en salle à moindre coût.
Car le sport en salle coûte cher et il n'est pas adapté à tous les portefeuilles. Pour entretenir leur corps et leur forme, Amos et Antoine préfèrent, eux, s'entraîner à domicile.
Donc, comme vous voyez, depuis le bas jusqu'en haut, on peut travailler sur tout son corps sans forcément aller dépenser des sommes folles. On peut vraiment obtenir pratiquement les mêmes résultats en faisant ces exercices. C'est vrai que les maladies peuvent survenir, mais on peut éviter beaucoup de maladies en prenant toutes ces précautions.
Antoine est un octogénaire en bonne santé. Devant son ordinateur, il suit religieusement les consignes de son coach basé au Canada dans ce programme de fitness dédié au troisième âge.
Surtout si j'ai des douleurs aux épaules, par là-bas, non ? Je m'entends.
Les pratiques du sport me procurent un bien-être. C'est-à-dire que je peux, à 80 ans, me mouvoir aisément, pas une mauvaise respiration. Et j'ai ma montre connectée qui m'aide. Avec cette montre connectée, j'ai le pouls et la tension. Donc pendant que je fais le sport, je surveille un peu les activités pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 à 5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde en raison du manque d'activité physique. Des données statistiques qui n'effraient pas les sportifs aux cheveux blancs d'Abidjan. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, l'un des principaux hôpitaux de Bamako utilise le théâtre pour aider les personnes souffrant de maladies mentales. Dans le cadre de ce programme de traitement, les patients bénéficiant de soins psychiatriques se produisent en utilisant le genre théâtral traditionnel, le koteba. Davantage avec Michel Joseph.
Dans la cour du service psychiatrique du point G, l'un des principaux hôpitaux de Bamako, un petit groupe de patients danse au rythme d'un djembé, tambour traditionnel d'Afrique de l'Ouest. Ils jouent ensuite les scènes d'un conflit villageois. Un jeune patient, Mamadou Diara, crie sur un autre en bambara. Le groupe participe au koteba, une forme traditionnelle de théâtre pratiquée par le plus grand groupe ethnique du Mali, les bambara. Ce genre mêle des jeux d'acteurs, des chants et des danses.
Non, je n'ai jamais fait de théâtre, je n'ai jamais dansé. Mais une fois que j'ai commencé, Dieu m'a donné la connaissance de ces choses. Tout ce que j'essaye, je le réussis. C'est le genre de personne que je suis.
Ici, au point G, le koteba est un moyen d'offrir un soutien aux personnes bénéficiant de soins psychiatriques. Adama Bagayoko, 67 ans, est l'un des premiers acteurs à avoir introduit cette tradition dans le service psychiatrique en 1983. Selon lui, le koteba est important parce qu'il donne aux patients le droit de s'exprimer.
D'abord, je vais parler de la maladie mentale. Elle intervient au moment où tous les contacts sont coupés, où tu es vraiment carrément exclu. C'est ça, c'est un moment qu'on dit que tu es fou. Mais quand ils viennent ici, ils se rendent compte à travers le koteba qu'ils ne sont pas exclus parce qu'on leur donne la parole. On se touche entre nous, on se côtoie entre nous, on danse ensemble, on rit ensemble, on fait des tapes. Donc, voilà un peu l'importance du koteba.
Les représentations du koteba au point G évoquent le plus souvent les problèmes réels de la société. Pour ce jour, les patients jouent une scène familière au Mali où les petits litiges sont résolus au sein de la communauté. Dans un village, un homme est accusé de vol. Alors que les villageois s'attroupent autour de lui avec colère, il s'échappe et fuit le village. Souleymane Koulibaly est un psychologue clinicien à l'hôpital du Point G.
Vous savez que le Koteba, c'est une technique traditionnelle d'animation qui a été développée dans la zone Bamara pour vraiment aborder les problèmes sociaux, souvent qui sont dramatiques, dans le but de les dédramatiser et d'assurer la cohésion sociale entre les différentes personnes.
Le Mali compte moins de 50 professionnels de la santé mentale pour une population de plus de 20 millions d'habitants, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé datant de 2022. Les personnes souffrant de maladies mentales sont souvent exclues de la société. Le Koteba permet ainsi à Mamadou Diarra et ses compagnons de se sentir mieux dans leur monde qu'ils créent.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24h sur 24.
Un comté de l'État du Wisconsin joue un rôle disproportionné dans la victoire des démocrates ou des républicains à la Maison-Blanche en novembre, selon les analystes. Veronica Balderas Iglesias de la VOA nous amène dans le comté de Dane, où la lutte pour influencer les votes s'intensifie à l'approche de l'élection. Le récit est de Rosine Monezero.
Gagner le Wisconsin, un état pivot ou swing state, pourrait faire basculer le candidat démocrate ou républicain à la Maison-Blanche. En 2016 et en 2020, cet état a été remporté par moins d'1% des voix. Alors que la plupart des comtés de Wisconsin penchent vers le conservatisme, Dane, le deuxième plus grand comté de l'État et siège de l'Université du Wisconsin, est en bastion libéral. La candidate démocrate Kamala Harris devrait l'emporter ici, mais c'est le nombre de voix qu'elle obtiendra qui compte. Mike Wagner, politologue à l'Université du Wisconsin, Madison.
Si elle parvient à surpasser le taux de participation dans le comté de Dane, la marge de victoire sera si importante qu'elle pourrait suffire à lui faire franchir la ligne d'arrivée.
La présence conservatrice dans ce comté en pleine expansion peut aussi être exploitée par la campagne du candidat républicain Donald Trump, selon M. Wagner.
Cette étape va se jouer entre 20 et 4 000 voix. S'il peut encourager 2 ou 3 000 personnes à voter ici, cela pourrait suffire à compenser l'état qu'il subit dans les banlieues.
Le Parti démocrate et le Parti républicain, qui visent une forte participation en novembre, adaptent leur message pour attirer leurs partisans dans ce comté de Dane. Le Parti démocrate mise sur le fait que les électeurs ne veulent pas aller, je cite, à reculons. Alexia Sabre est la présidente du Parti démocrate du comté.
La préservation de la démocratie est une question très importante, de même que l'accès aux soins de santé reproductive.
Le message des républicains se concentre sur l'économie. Brian Schemming, président du Parti républicain du Wisconsin.
Le choix est entre Donald Trump, qui a été un succès économique avéré en tant que président, et Kamala Harris, qui est, avec Joe Biden, un échec avéré.
Les démocrates contestent cette évaluation, mais la plupart des électeurs du comté de Dane ont probablement déjà décidé pour qui ils allaient voter. Dans l'ensemble de l'État, seuls 4% des électeurs sont réellement indécis, selon un sondage réalisé par l'Université Marquette. John Johnson est chercheur à l'Université Marquette.
Certains sont indécis parce qu'ils ne prêtent pas vraiment attention à la politique et qu'ils la trouvent frustrante.
La course étant très serrée, les partis vont continuer à courtiser les indécis dans le comté de Dane et au-delà, dans l'espoir que leurs votes vont faire la différence.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Le premier anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Ce jour funeste a déclenché une guerre meurtrière dont les répercussions se font sentir bien au-delà des frontières israéliennes et palestiniennes. Un an après, le Proche-Orient est-il au bord d'une conflagration totale? De l'Amérique à l'Europe en passant par l'Asie et l'Afrique, les gouvernements aux quatre coins du globe sont-ils plus que jamais sous pression pour prendre position? L'Iran complique-t-il les efforts de paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde, Firmin Koyaweda. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de vos programmes.